Alors, je vous propose pour commencer de lire dans les Proverbes au chapitre 1 et au verset 1er. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour discerner les paroles d'intelligence, pour recevoir instruction dans la sagesse, la justice, le juste jugement et la droiture. Pour donner au simple la note marque privée de sens. Pour donner au simple de la prudence, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Le sage écoutera et croîtra en science, et l'intelligent acquerra du sens pour comprendre un proverbe et une allégorie, les paroles des sages et leurs énigmes. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les fous méprise la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et n'abandonne pas l'enseignement de ta mère, car ce sera une guirlande de grâce à ta tête et des colliers à ton cou. Mon fils, si les pécheurs cherchent à te séduire, n'y acquiesce pas. S'ils disent « Viens avec nous, nous serons embûches pour le sang et nous nous cacherons pour guetter l'innocent sans cause. Nous les engloutirons vivants, comme le Shéol est tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux et nous remplirons nos maisons de butin. Prenons-le parmi nous et il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne fais pas route avec eux. Retiens ton pied dans leur sentier, car leurs pieds courent au mal et ils se hâtent pour verser le sang. Car eux, en vain, le filet est étendu devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et eux, ils sont aux embûches contre leur propre sang. Ils se cachent pour guetter leurs propres âmes. Toutes les voies de tout homme qui cherche le gain des honnêtes, lequel ôte la vie à ceux qui le possèdent. Telles sont les voies, de tout homme qui cherche le gain des honnêtes, lequel ôte la vie à ceux qui le possèdent. La sagesse crie au dehors, elle fait retentir sa voix sur les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux ouvertures des portes. Elle prononce ses paroles dans la ville simple. Jusque à quand aimerez-vous la simplicité? Jusque à quand les moqueurs prendront-ils plaisir à la moquerie? Et les sots haïront-ils la connaissance? Revenez à ma répréhension, et voici, je ferai couler pour vous mon esprit. Je vous ferai savoir mes paroles. Parce que j'ai crié et que vous avez refusé d'écouter, parce que j'ai étendu ma main et que personne n'a pris garde, et que vous avez rejeté tout mon conseil, et que vous n'avez pas voulu de ma répréhension, moi aussi, je rirai de votre calamité, je me moquerai quand viendra votre frayeur, quand votre frayeur viendra comme une subite destruction, et que votre calamité arrivera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse viendront sur vous, alors ils crieront vers moi, je ne répondrai pas. Ils me chercheront de bonheur, mais ils ne me trouveront point. Parce qu'ils ont haï la connaissance et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, qu'ils n'ont pas voulu de mon conseil, qu'ils ont méprisé toute ma répréhension, ils mangeront du fruit de leur voix et seront rassasiés de leur propre conseil. Car la révolte des simples les tue et la prospérité des sots les fait périr. Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité et sera tranquille, sans crainte du mal. Mon fils, si tu reçois mes paroles et que tu caches par-devers toi mes commandements pour rendre ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu appelles le discernement, si tu adresses ta voix à l'intelligence, si tu la recherches comme de l'argent et que tu la recherches comme des trésors cachés, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche procède la connaissance et l'intelligence. Je lirai jusqu'ici. Ce premier chapitre, un bout du deuxième qu'on a lu, nous montre clairement les différentes attitudes qu'on peut avoir devant Dieu, soit le profond respect et la crainte, soit le mépris. Pendant des générations, les sages transmettaient les principes d'éducation et de la sagesse par tradition orale. David avait constitué un conseil permanent de sages qui réfléchissaient aux applications de la foi dans la vie courante. On voit ça dans Chronique 27, à la fin du chapitre. Salomon a joué un rôle primordial en rédigeant toute une partie du livre des Proverbes pour les générations suivantes. C'est un livre poétique et didactique. Il a été écrit par plusieurs auteurs, dont Salomon, qui en a écrit la majeure partie, mais aussi Agur et la mère du roi Lémuel, ainsi que des hommes sages non nommés. Si le livre des psaumes est un recueil de poésie lyrique, c'est-à-dire pour le chant essentiellement, celui des proverbes est celui de la poésie didactique pour instruire et rendre sage et bon. C'est le premier ouvrage écrit sur le sujet. Est-ce qu'on peut imaginer cela à l'ère du smartphone, des réseaux sociaux? Il n'y avait pas d'école, pas de papier, pas de livre, pas d'imprimerie. Le livre des Proverbes a donc été écrit en grande partie entre la période du règne de Salomon, environ 950 ans avant Jésus-Christ, et celui d'Ézéchias, environ 700 ans avant Jésus-Christ, sur des rouleaux en matière organique qui devaient être recopiés par les scribes. Alors, si on regarde un petit peu juste, pour avoir une fois un peu dans la tête le plan des Proverbes, on a dans les Proverbes 1 à 9 une introduction et une éloge de la sagesse. Dans les Proverbes 10, 1 à 22, 16, une première collection de maximes de Salomon, qui sont des sentences brèves sur quantité de sujets divers relatifs à la vie privée et publique, et qui se suivent sans ordre apparent. Des Proverbes 22, 17 à 34, 17 à 24, 34, un petit groupe de maximes introduites par les mots « Écoute, mon fils, les paroles des sages », qui indiquent que ces sentences sont attribuées non plus à Salomon, mais à des sages qui ne sont pas nommés. Ensuite, nous avons une collection de nouveau de maximes attribuées à Salomon et recueillies par les gens d'Ézéchias depuis Proverbes 25 à 29. Le 30e chapitre, c'est les collections de maximes, d'énigmes et de proverbes à nombre avec la souscription « Parole d'Agur ». Proverbe 31, 1 à 9, exhortation à la chasteté, à la chasteté, à la tempérance et à l'intégrité dans les questions de droit adressées au roi Lémuel par sa mère. Ensuite, à la fin de ce chapitre 31, l'éloge de la femme vertueuse, c'est un poème alphabétique sans souscription. L'auteur de ces proverbes principales, donc, c'est Salomon. Dès sa naissance, l'Éternel l'aima et envoya Nathan le prophète pour l'appeler du nom de Djedidja, bien-aimé de l'Éternel. On voit ça dans 2 Samuel 12, 25. Pourquoi? On peut se poser la question, après ce que ses parents ont fait, David a passé des moments difficiles, humiliants, de supplications, de repentance. Il a écrit un des plus beaux psaumes, le psaume 51, qui démontre la profondeur de son repentir. La grâce de Dieu est vraiment extraordinaire. David retrouve la relation et la confiance avec son Dieu. Il peut même le louer. Quand Bathsheba se trouva de nouveau enceinte, elle et David ont prié pour cet enfant qu'ils attendaient. Et l'ont vraisemblablement confié ensemble à Dieu. Même si ce n'est pas dans le texte, ce n'est pas le fruit du hasard si l'Éternel l'aima. Bien avant qu'il y construit le temple, Salomon est allé à Gabaon pour offrir 1000 holocaustes. L'Éternel lui avait révélé dans un songe, « Voici, je t'ai donné un cœur sage et intelligent, en sorte qu'il n'y aura eu personne comme toi avant toi, et qu'après toi, il ne se lèvera personne comme toi. » Nous avons donc lui en partie cette introduction, mais même plus loin, du livre des Proverbes. Le but de ce livre, on le trouve dans ses premiers versets. Connaître la sagesse. Gilles Despin nous a rappelé la dernière fois qu'il était là que la sagesse dans l'Écriture est fondée sur une révélation de Dieu. Elle incorpore les principes de la vérité de Dieu et nous aide à discerner le bien du mal. Connaître l'instruction, discerner les paroles d'intelligence, recevoir instruction dans la sagesse, la justice, le juste jugement et la droiture, donner la prudence, donner de la connaissance et de la réflexion, donner de la croissance en science, acquérir du sens pour comprendre. À qui s'adresse-t-il ? Eh bien, on voit aussi là, dans ces premiers versets, aux simples. Les simples, ça veut dire ouvert. Ouvert dans le sens ouvert à tout, à toutes sortes de doctrines, influençable. Et c'est pour ça que quand il parle des simples, il dit pour donner aux simples de la prudence. Donc il faut leur apprendre à être prudents pour ne pas être trop ouverts et ne pas être trop influencés par toutes sortes de choses. Dans ce début des Proverbes, on a vu qu'on pouvait rechercher l'Éternel, avoir ce profond respect pour lui, ou bien qu'on pouvait le rejeter et puis suivre sa propre voie pour s'enrichir, pour acquérir des biens, pour acquérir... acquérir une notoriété éventuellement sur le plan humain. Mais c'est évident que l'Éternel recherche particulièrement et s'adresse au niveau de ses proverbes à ceux qui veulent bien l'écouter, à ceux qui veulent bien le respecter. C'est aussi pour les jeunes hommes, pour les sages et pour les intelligents. Soit des individus de son temps, mais pas seulement, parce que ces principes sont généraux et s'adressent aussi à nous. Nous avons donc sous les yeux, un livre qui nous présente la pédagogie de Dieu transmise par Salomon et d'autres hommes sages. Le verset 7 est considéré comme le verset clé de ce livre. Mais qu'est-ce que la crainte de l'Éternel ? Alors, d'une manière générale, on peut avoir peur, par exemple, du danger, des risques à prendre. On peut aussi avoir peur des jours difficiles, de l'avenir, être inquiet. On peut avoir peur de la maladie, de la souffrance, du vieillissement. On peut avoir peur de Satan, des démons, des idoles, des superstitions. Aussi de l'échec, de nos habitudes, de nous-mêmes, de la mort, de la perdition éternelle. Et de l'autre, ou du rejet par les autres. La crainte est la conséquence du péché. Depuis la chute, nous voyons que l'homme a peur. Dans Genèse 3, au verset 10, après quand Dieu le cherche dans le jardin, Adam a répondu, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. C'est la marque de la chute, la crainte, et le signe de l'imperfection de notre sanctification, c'est-à-dire qu'on est incapable de vivre pour Dieu, qu'on est incapable de ne vivre que pour lui et de faire ce qu'il nous demande. La peur, la crainte, même les psychiatres la reconnaissent, et un professeur de psychiatrie français, qui est décédé il y a quelques années, qui s'appelait Edouard Zarifian, a écrit « L'angoisse est ancrée au cœur de la condition humaine. Nous vivons dans un monde angoissé. » Alors, excusez-moi les Français, mais j'ai trouvé des statistiques plutôt en France. Et c'est en France que nous trouvons les plus gros consommateurs de psychotropes au monde. Cette situation ne cesse d'empirer. Plus d'un quart des Français en 2017 consomment des anxiolytiques, des antidépresseurs, des somnifères et autres médicaments pour le mental. 150 millions de boîtes sont prescrites chaque année. Voilà. Alors, dans l'Ancien Testament, c'est le mot yira hébreu qui signifie craindre, effrayant, terreur qui est employé. Et c'est ce mot yira qui a été à la base des recherches des versets qui parlent de la crainte de l'Éternel dans les Proverbes. Dans le Nouveau Testament, c'est le mot phobéo qui signifie craindre, dans la crainte, avoir peur, saisi de frayeur, effrayé, effroi, respecté, troublé. C'est donc un verbe. Alors, dans ce que nous avons vu tout à l'heure dans le verset 7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Elle initie le désir de connaissance. C'est l'amorce. C'est ouvrir la porte à la science, le savoir basé sur la connaissance de Dieu lui-même qui est infini. Le vrai savoir, la vraie connaissance vient de Dieu. On y discerne une tension entre la crainte et la soif de connaissance. La crainte de l'Éternel mène au salut. Et la crainte de l'Éternel, c'est en quelque sorte le moteur pour acquérir la connaissance et la sagesse. On peut craindre et avoir soif de connaître Dieu, d'acquérir la sagesse ou mépriser la sagesse et l'instruction. On a vu ça dans ce premier chapitre. Soif de connaître Dieu, d'acquérir la sagesse, ou bien mépriser la sagesse et l'instruction. Dans les Proverbes, nous trouvons 14 versets. Là, il y en a un peu moins, mais c'est les mêmes significations. J'ai regroupé, en quelque sorte, qui utilisent la crainte ira de l'Éternel et 4 fois craindre l'Éternel. Ce profond respect de Dieu, donc la crainte comme en tant que profond respect de Dieu. Elle nous amène à trouver la connaissance de Dieu. Proverbe 2, 5, ça je l'ai lu. Enseigne à la sagesse. Au-dedans, il y a la sécurité et la force, de la force. Au-dedans, il y a un refuge pour ses fils, au-dedans de la crainte. Donc. Elle ajoute des jours, elle est une fontaine de vie, elle mène à la vie. Et puis aussi ce côté protecteur, cette incitation à fuir ce qui est dangereux, c'est haïr le mal, nous détourner du mal, fait éviter les pièges de la mort. Alors on se rend compte que cette sagesse nous met en garde contre le mal et la séduction sous diverses formes. La séduction pour aller avec les autres qui nous invitent, la séduction de la femme de mauvaise vie qu'on voit dans ces chapitres, tout au long de ces versets. C'est vrai que ce livre des Proverbes est instructif pour que on puisse comprendre qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et en fait, cette crainte de Dieu, eh bien, on se rend compte qu'elle vient vraiment de ce péché originel parce que l'homme a voulu connaître, a voulu savoir ce que c'était que le mal. Eh bien, il en a acquis une crainte vis-à-vis de Dieu. Et une peur de tout ce qui peut lui arriver, une peur de Satan, une peur aussi de Dieu parce qu'il ne se sent pas pur devant Dieu. Alors c'est vrai que c'est Jésus qui nous fait connaître Dieu, et connaître Jésus, c'est connaître Dieu. Il l'a d'ailleurs dit dans les évangiles. Si vous me connaissez, vous connaissez le Père. Alors, Dans l'Ancien Testament, la crainte de l'Éternel, elle est depuis le début. Hein, on l'a vu, c'est cette peur que Adam a eue déjà dans le jardin. Dans le Deutéronome, c'est-à-dire quand Moïse a écrit ce Deutéronome, Moïse a écrit « Et maintenant, Israël, qu'est-ce que l'Éternel demande de ton Dieu, demande de toi, sinon que tu craignes l'Éternel ton Dieu, pour marcher dans toutes ses voies, et pour l'aimer, et pour servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, en gardant les commandements de l'Éternel et ses statuts que je te commande aujourd'hui pour ton bien. » Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, et tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Lui est ta louange et lui est ton Dieu, qui a fait pour toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Et David a écrit, « Venez, fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » Qui est l'homme qui prenne plaisir à la vie et qui aime les jours pour voir du bien? Garde ta langue du mal et tes lèvres de proférer la tromperie. Retire-toi du mal et fais le bien. Cherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel regardent vers les justes et les oreilles sont ouvertes à leurs cris. La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal pour retrancher de la terre leur mémoire. Les justes crient et l'Éternel les entend et il les délivre de toute leur détresse. Salomon était à bonne école avec son père David. Cette expression de la crainte de l'Éternel, elle sous-entend qu'il y a une relation entre l'homme et l'Éternel. Et que cette relation qu'il a est empreinte d'un profond respect, caractérisé par le désir de lui plaire avec la frayeur de lui déplaire. Donc il y a cette dualité, ce désir de plaire et cette frayeur, cette envie de connaître. C'est Dieu qui inspire cette crainte pour pouvoir bénir celui qui le respecte et qui le recherche. C'est Dieu. À travers cette crainte, Dieu veut inciter l'homme à obéir à ses commandements et à haïr le mal. Et on le voit dans la vie de quelques hommes de Dieu, de l'Ancien Testament, par exemple Isaac. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. On voit que David aussi, la crainte de l'Éternel est pure, subsistant pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont la vérité juste, tous ensemble. Venez, fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Il y a donc cette envie de faire connaître à quoi mène la crainte, quelle est l'utilité de la crainte. Et quelle est vraiment cette déférence et ce respect qu'on a de Dieu. David était fâché contre l'Éternel quand un des jeunes hommes qui a voulu s'approcher de l'arche quand il l'a déplacée, quand elle a été déplacée, quelqu'un qui n'était pas lévite et quelqu'un qui ne pouvait pas toucher cela, ou un lévite mais qui ne pouvait pas toucher. Et qui est décédé sur le champ. David a eu ce choc en vivant cette expérience, ce choc que l'Éternel est grand et terrible et que l'Éternel est juste et que ce qu'il a demandé, il faut le faire. Daniel a écrit, « Il est bon que tu saisisses ceci. Il est bon que tu saisisses et que tu te retires point ta main de cela. » Car qui craint Dieu sort de tout. Ce qui craint Dieu sort de tout montre vraiment ce que Dieu veut être pour les hommes, pour ceux qui se confient en lui, ce qu'il veut être pour comme solution aux problèmes des hommes. Nous pouvons donc voir à travers l'Ancien Testament que la crainte de l'Éternel, c'est un début du processus de découverte, un début d'un processus de connaissance et d'une relation de confiance qui s'intensifie. C'est aussi le début d'une recherche de faire plaisir à Dieu, c'est-à-dire d'une vie de sainteté qui est consacrée à Dieu et qui fait plaisir à Dieu. Le seul homme saint que la terre ait porté, c'est Jésus. Il a fait tout ce que son Père voulait. C'est aussi le début d'une protection de la part du Créateur et le début d'une prospérité terrestre dans le cas des promesses de Dieu à son peuple. Alors, dans le Nouveau Testament, on aimerait presque pouvoir dire que depuis que Jésus est venu sur la terre, la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu, c'est de l'histoire ancienne. Mais non, c'est toujours d'actualité. Lors de l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste par un ange, Zacharie manifesta de la crainte. Lorsqu'il était circoncis, Zacharie a retrouvé la parole et tous furent saisis d'étonnement et furent remplis de crainte. Le fait de réaliser l'intervention de Dieu. À la naissance de Jésus, les bergers, lorsque l'ange leur est apparu et que la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, furent saisis d'une fort grande peur. Donc, l'Éternel inspire encore de la crainte. Quand Pierre l'a vu, c'était pas la première fois d'ailleurs qu'il le voyait, il est tombé aux pieds de Jésus quand il y a eu la pêche miraculeuse, et il s'est écrié: « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la prise de poisson qu'il venait de faire. La crucifixion provoqua la frayeur du centurion. Et le centurion et ceux qui étaient avec lui veillaient sur Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, eurent une fort grande peur, disant: certainement, celui-ci était fils de Dieu. Et ce verset est intéressant parce qu'on voit que cette grande peur est liée à la reconnaissance de qui est Jésus et de qui est Dieu. L'un des brigands sur la croix a pu reprendre l'autre qui injuriait Jésus en lui disant: « Es-tu ne crains pas Dieu, toi, qui es sous le même jugement ? Et pour nous, nous y sommes justement, car nous recevons ce que méritent les choses que nous avons commises. Mais celui-ci n'a rien fait qui ne se dût faire. » Il s'est rendu compte que Jésus était un homme saint qui a fait tout ce que Dieu voulait. Il s'est rendu compte que lui était pécheur. Et c'est pour ça que Jésus a pu lui répondre: « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Donc, en fait, cette crainte de Dieu, comme dans l'Ancien Testament d'ailleurs, où je l'ai dit tout à l'heure, mène au salut. Jean, aussi une chose intéressante. Jean, le disciple que Jésus aimait, qui s'est penché sur la poitrine de Jésus lors du souper, hein, pour demander à Jésus, mais qui était ce traître parmi eux? Eh bien, Jean, quand il a vu Jésus dans Apocalypse 1, 17, glorifié, « Et lorsque je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Et il mit sa droite sur moi, disant: ne crains point, car je suis le premier, le dernier et le vivant. » Donc, cette rencontre de Jean, le disciple que Jésus aimait, qui était proche de lui, avec Jésus glorifié, montre bien la distance qu'il y a entre un homme sur la terre et Jésus glorifié dans le ciel. C'est la présence de Dieu, de Jésus dans le cas particulier, est presque insoutenable. Tellement il est saint, tellement il est grand, tellement il est juste. Pour un homme pécheur, même sauvé, c'est une grande crainte qui apparaît ou qui vient. Le Saint-Esprit est à l'œuvre pour convaincre l'homme, ou le monde, pardon, de péché. On le voit ça dans Jean 16, au verset 8. Il est à l'œuvre pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Lui seul peut nous dégoûter de nous et nous délivrer du péché et nous donner soif de sainteté. Le Saint-Esprit utilise la crainte de Dieu pour amener les gens à la conversion. On voit ça avec le geôlier de Philippe. Voilà. Acte 16, 29. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entre précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas et les fit sortir et dit : Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent : Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ou ta maison, suivant les versions. Il a été placé là devant une situation qu'il ne comprenait pas. Ces hommes qui étaient emprisonnés étaient libres pendant la nuit. Il ne comprenait pas comment ça s'était passé et il réalisait que c'était quelque chose d'extraordinaire que seul Dieu pouvait faire. Par la crainte de Dieu, nous pouvons abandonner les mâles. On voit ça dans 2 Corinthiens 7, 11. La tristesse qui est selon Dieu opère une repentance à salut dont on n'a pas de regret. Mais la tristesse du monde opère la mort, car voici ce fait même que vous ayez été attristés selon Dieu. Quel empressement il a produit en vous, mais quelles excuses, mais quelle indignation, mais quelle crainte, mais quel ardent désir, mais quel zèle et quelle vengeance. À tous égards, vous avez montré que vous êtes purs dans l'affaire. Là aussi, on voit les deux côtés. Une tristesse qui est selon Dieu. Produit des excuses. Cette indignation, cette crainte a provoqué un ardent désir, un zèle. À tous égards, vous avez montré que vous êtes pur dans l'affaire. Le fait de craindre et le fait de pouvoir répondre à Dieu parce que l'on se repent, parce que l'on reconnaît ses fautes, parce que l'on reconnaît ce que l'on est, eh bien, nous amène à un ardent désir, à du zèle. Les chrétiens, les premiers chrétiens marchaient dans la crainte du Seigneur. On voit ça dans Actes 9, 31. Et Corneille aussi, avant sa conversion, Corneille n'était pas juif. Eh bien, il avait aussi la crainte de Dieu. Donc la crainte de Dieu stimule la sanctification, c'est-à-dire le fait de vouloir faire ce que Dieu nous demande, de vouloir être utile à Dieu là où il nous place, de vouloir faire sa volonté, de vouloir ne pas s'égarer et faire autre chose, mais faire sa volonté. Ça, c'est une vie de sainteté, de consécration. La crainte de Dieu stimule la sanctification et l'amour fraternel, dans 2 Corinthiens 7, 1. « Ayant donc ces promesses, bien-aimés, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure, de chair et d'esprit, achevons la sainteté dans la crainte de Dieu. Et dans Éphésiens 5, 21, vous soumettons les uns les autres, dans, les uns aux autres, dans la crainte de Christ. Donc cette crainte peut vraiment nous aider dans notre vie de tous les jours à rechercher cette sanctification, dans la vie de tous les jours à rechercher à nous soumettre les uns aux autres, à exercer cet amour fraternel aussi pour que Dieu soit glorifié, parce que c'est une marque du fait que l'on appartient à Jésus, c'est qu'on s'aime les uns les autres. Et cela peut se voir. En conclusion, la crainte de Dieu est une protection. Une protection contre les mauvaises influences. Et un garde-fou pour nous empêcher de tomber, de sortir de la route, de sortir du chemin que Dieu nous trace. C'est aussi un stimulant, c'est quelque chose qui nous aide à rechercher le Seigneur, à rechercher à faire ce qu'il veut dans notre vie quotidienne, à rechercher à vivre pour lui. Et c'est aussi une veille spirituelle qui tend à une confiance totale. Donc cette crainte de Dieu, elle alimente ce désir de connaissance. Et quand on s'égare, cette crainte de Dieu nous ramène à l'essentiel. Elle nous aide à rechercher ce qui est important dans notre vie. C'est dans ce sens-là que c'est une veille spirituelle. On parle beaucoup dans le monde de veille technologique pour être au courant de tout ce qui est nouveau sur le plan technique, sur le plan de notre métier, sur beaucoup de plans, enfin sur le plan de la gestion, sur le plan des différentes activités humaines. Et bien la veille spirituelle, elle est là aussi pour nous aider chaque jour à revenir à Dieu, pour nous aider à rechercher ce que Dieu veut nous apprendre de nouveau, ce qu'il veut nous stimuler à faire, ce qu'il veut nous aider à éviter, ce qu'il veut nous aider à nous détourner pour que nous puissions rester sur ce chemin qu'il nous prépare. Et puis ça initie un processus de confiance. Un processus de confiance qui nous affermit, qui nous rend plus forts dans notre vie et dans notre relation avec Dieu. Et qui, en fait, fortifie notre foi, cette confiance qu'on a avec Dieu chaque jour. Ça nous aide dans cette confiance qu'on peut avoir avec Dieu, mais aussi dans ces relations qu'on a avec nos frères et sœurs et notre prochain. Donc, on l'a vu, hein, ça nous stimule à l'amour fraternel et c'est important, à l'humilité. Et ce processus, comme nous sommes des hommes faillibles, eh bien, il faut sans cesse le renouveler. Il est itératif. Et puis ça, c'est encore un effet de la grâce de Dieu. Alors, en ceci est consommé l'amour avec nous, afin que nous ayons toute assurance au jour du jugement, c'est que comme il est lui, nous sommes nous aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la crainte, car la crainte porte avec elle du tourment, et celui qui craint n'est pas consommé dans l'amour. Alors on pourrait se dire, oui, mais ce verset, ça dit exactement le contraire de tout ce que je viens de dire. Pas vraiment, parce qu'il parle de l'amour parfait, donc cette situation, que cette situation de relation parfaite avec Dieu, que l'on n'atteint pas, mais on va l'atteindre. On va l'atteindre quand on sera auprès de lui. Alors, c'est vrai qu'il faut reconnaître que, même en tant que croyant, le jour du jugement n'est pas sans inspirer une certaine inquiétude ou crainte. Concrètement, cela signifie que l'amour de Dieu n'a pas atteint sa perfection en moi. Je ne suis pas à 100% parfait dans l'amour que Dieu met en moi. Je ne le laisse pas agir à 100% comme il faut. Et je crois que très, très humblement, chacun de nous peut reconnaître que on a vraiment ce désir que le Seigneur vive en nous et qu'il nous inspire dans tout ce que l'on fait par son esprit, mais qu'on n'y arrive pas et qu'on doit sans cesse progresser, s'améliorer. On doit sans cesse aller de l'avant et croître et devenir adulte. Encourageons-nous donc alors à vivre cet amour, à le mettre en pratique les uns vers les autres, à le laisser mûrir en nous pour chasser cette crainte et connaître cette assurance et cette sérénité. À chaque pas, la crainte de Dieu nous fait découvrir cet amour de Dieu, cette grâce de Dieu, parce que nous ne méritons rien et que tout vient de lui. Cette confiance en Dieu, parce qu'on peut se lâcher complètement dans ses mains. Et cette espérance que l'on a dans les promesses de Dieu et qui nous garde chaque jour. Eh bien, ça, c'est une prière que l'on peut faire, de persévérer et de grandir dans cet amour de Dieu pour comprendre et pour réaliser ce qu'est cette grâce de Dieu et pour lui faire toujours plus confiance en fortifiant, parce qu'il fortifie par ses expériences notre foi et que cette foi, eh bien, elle se réalise dans cette espérance que l'on a, qu'il prend soin de nous chaque jour.